Voilà, alors j'ai intitulé un titre, ça permet de retrouver un peu le message, Élève-toi. Élève-toi. Ce titre est paradoxal. Pourquoi paradoxal? À la limite de la provocation. Car l'enseignement habituel pour un disciple, c'est abaisse-toi, humilie-toi. Prends Jésus comme exemple pour son humilité, cette humilité qui l'a conduit à la croix, à son élévation, mais d'abord à son humiliation. Alors pourquoi ces deux messages, donc abaisse-toi et élève-toi, sont vrais tous les deux à la fois? Abaisse-toi, élève-toi. L'explication, c'est à cause de qui nous sommes. Vous savez que nous sommes esprit, âme et corps. Nous sommes une seule entité, on ne peut pas nous diviser, mais on peut distinguer l'esprit, l'âme du corps. Et maintenant, je pense que vous avez compris avec le passage de Gilles que l'esprit doit s'élever et l'âme doit s'abaisser. C'est-à-dire qu'en nous, ces deux entités, je ne parle pas du corps, vous savez ce que c'est que le corps, mais ces deux entités sont contradictoires en nous. Et donc, la parole de Dieu s'adresse à nous dans ces deux domaines. L'esprit doit être en communion avec le Seigneur et chercher à vivre, parce que c'est de là que nous avons reçu la nouvelle naissance par l'esprit. Jésus a dit à la Samaritaine, il faut naître d'en haut, et l'âme, c'est naître d'en bas. On sort du ventre d'une maman. En principe, tous sur la planète, on vit cette expérience. Mais on est d'en haut par le Seigneur, par la nouvelle naissance. Donc les deux sont vrais et il faut conjuguer ces deux choses-là. Alors Jésus un jour a dit à ses disciples, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix. Et il rajoute l'enseignement en disant « Celui qui trouve sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie la trouvera. » Et si vous ne distinguez pas l'esprit de l'âme, vous ne comprenez rien. Ce que vous dites, là, Jésus fait du charabia, là. Faut trouver, puis perdre. Non, mais il faut trouver la vie de l'esprit et perdre la vie de l'âme. Des deux vies. Mais c'est des vies d'un autre ordre. C'est un ordre de la terre, l'ordre du ciel d'en haut. C'est ainsi qu'on peut vivre une saison de repentance aussi. Vous voyez, alors là, on distingue en nous ces deux choses-là qui existent en même temps, sauf qu'il faut faire des choix de vivre par l'esprit. C'est pas naturellement, on vit par la chair, et donc l'esprit, c'est un effort qu'il faut faire. Et on peut aussi vivre dans l'Église, c'est là que je veux en venir, des saisons différentes. Alors là, c'est pas possible de vivre en même temps, mais de manière séquentielle. Une saison de repentance, donc d'humilité, d'humiliation, comme on a vécu en septembre, comme tous les ans, depuis 20 ans, plus de 20 ans maintenant, le Seigneur m'a montré qu'il faut qu'on commence l'année par une semaine de repentance. Mais il ne faut pas que rester dans la repentance tout le temps. Il faut suivre ensuite, après, une saison d'élévation. Il faut s'élever. Et on est dans cette saison d'élévation, qui a d'ailleurs commencé avec la venue de Gilles, il y a 15 jours, et qui a été confirmée par notre visite de la famille d'Élim. En fait, Dieu nous interpelle en ce moment, depuis quelques semaines, à nous élever, c'est-à-dire à monter vers Dieu. Alors Gilles a utilisé cette image-là, l'image de l'aigle. D'ailleurs, je n'ai pas eu de mal à trouver sur Internet, parce que partout... c'est connu que l'aigle, le seul animal qui peut l'attaquer, c'est le corbeau. Et le corbeau se met entre deux, quoi. Il est très très agressif, il n'a pas peur de l'aigle, parce qu'il faut quand même pas avoir peur d'être... parce qu'il peut le dévorer en un instant, c'est une fraction de seconde. Mais le corbeau, un peu comme l'ennemi, pour nous, il n'a pas peur de nous attaquer. Parce qu'il n'a rien à perdre, si vous voulez. Il a tout perdu, mais il veut continuer à entraîner avec lui les personnes que nous sommes, et surtout les chrétiens. Donc là, il y a cette image, vous pouvez réécouter son enseignement, je ne vais pas le rappeler ce matin, mais il a bien montré, bien dit, que la seule manière de s'en débarrasser, c'est quoi? monter, s'élever, hein, c'est le mot que j'utilise aujourd'hui, s'élever, c'est de s'élever. Il n'y a aucun moyen pour l'aigle de se débarrasser du corbeau, bien que les tailles soient totalement différentes. Donc en fait, la seule stratégie qu'il a, l'aigle, c'est de s'élever, 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 s'élever. Jusqu'à ce que le corbeau n'a plus assez d'oxygène, et du coup il lâche et il s'en va. Et comme, c'est comme ça qu'il se libère. Donc tout l'enseignement de Gilles qui nous a donné, c'est élevez-vous dans le Seigneur, élevez-vous dans la prière, élevez-vous au travers des actions spirituelles. C'est tout l'enseignement aussi du Nouveau Testament. Donc, s'élever. Le pasteur Malcolm Duncan, donc c'est le senior pasteur de Kensington Temple, qui est au centre de Londres, qui est une grande église qui fait partie des limes, eh bien, il nous a exhortés avec Jean, qu'on va lire dans un instant, Jean, Apocalypse, dans l'Apocalypse, chapitre 14, où il dit à Jean, hein, Jean, c'est l'évangéliste, c'est l'apôtre, hein, qui était sur Patmos, l'île de Patmos, et qui a vécu c'est pas un songe, il était carrément en esprit, il est monté vers le Seigneur, et il a vu des choses, hein, il a vu des réalités, qu'il a essayé de traduire dans le livre de l'Apocalypse, mais voilà, on ne peut pas traduire des choses avec des mots. Vous savez, là-haut, il n'y a pas des motos ou des sidecars ou des machins comme ça. Il y a autre chose. Donc, il utilise des mots pour essayer d'expliquer ça. C'est pour ça que ça fait un peu étrange, toutes ces descriptions qu'il a. On s'appelle des langages symboliques, hein, des symboles. Et Dieu lui dit, monte ici et tu verras. Donc, élève-toi. Donc, il y a un ordre qui est donné par l'Esprit à Jean en disant « élève-toi ». Et c'est en partie là-dessus qu'il a prêché, quand je l'ai entendu encore le jeudi avant de partir. Donc, ça, c'était l'enseignement de nous élever aussi sur ordre de Dieu, sur ordre de l'Esprit. Et la position élevée qu'on retrouve aussi sur les montagnes, vous savez que dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de questions de montagnes, où on s'élève pour proclamer les bénédictions ou les malédictions, hein. C'est-à-dire que c'est là que le peuple d'Israël était en contact avec Dieu pour agir dans la vallée, où se passaient souvent les combats, ils ont les victoires dans une position élevée. Et cette position élevée sur une montagne, c'est toujours le signe d'un rapprochement avec Dieu pour recevoir sa vision. Hein, rappelez-vous le prophète qui disait « Seigneur, ouvre-lui les yeux à son serviteur parce que moi je vois des choses que lui ne voit pas. » On a des visions de Dieu sur des situations qui nous sont propres sur la terre. C'est comme si Dieu disait à l'Église aujourd'hui, et là je l'applique à notre Église après ces temps de repentance maintenant dans la saison d'élévation, comme s'il disait à l'Église d'Élisabeth, monte ici et tu verras ce qui va arriver et ce qui est déjà en cours. Actuellement, je peux vous dire qu'il y a des choses en cours sur le plan spirituel qu'on va voir d'ici peu, parce que on a prié, on a jeûné, on a intercédé, et c'est pas en vain. Vous croyez que Dieu entend les prières ? Vous croyez que Dieu entend les repentances ? Vous croyez que Dieu... Si vous croyez, ça veut dire qu'il y a des résultats. Et voilà, c'est ce qui va se passer. Donc, ce que le Seigneur veut, c'est qu'on monte pour voir comment lui voit les choses. Et tu verras ce qui doit arriver, ce qui est déjà en cours. Dans Amos, chapitre 3, verset 7, il est dit « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret » à ses serviteurs, les prophètes. Le Seigneur nous montre des choses. On n'est pas dans l'Ancien Testament, on est dans le royaume de Dieu, que ce soit ancien ou nouveau. Donc Dieu révèle cette parole d'Amos, et pour nous, pour tous les temps, le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et si nous montons, parce que nous sommes tous des prophètes et des rois dans le Nouveau Testament, bien nous allons voir ce que Dieu est en train de faire, et c'est ce que je propose. Alors lisons ensemble l'Apocalypse, qui est un peu long, le 16 versets, Mais je crois que c'est important de s'imprégner de cette manière dont Dieu montre à ses serviteurs des réalités qui nous échappent, mais qui existent. Donc il faut s'habituer un peu à ces réalités aussi aujourd'hui. Après cela, alors je lis la parole, « Je regardais, voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue me parler avec la force d'une trompette dit alors, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. » Aussitôt, je fus saisi par l'esprit. » Juste un instant, voyez-vous, Dieu parle, Dieu donne un ordre, dit « Monte !» Et l'esprit saisit Jean. Pourquoi ? Parce qu'il était prêt à être saisi. L'esprit ne peut pas nous saisir si on n'est pas prêt. Si on résiste, si on doute, si on discute, si voilà, etc. Donc, vous voyez, là, c'est cette harmonie entre Jean et l'esprit. Aussitôt, je fus saisi par l'esprit. Et voici ce qu'il vit. Je vis un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Donc, vous voyez, le trône, rappelez-vous, Jean-Paul Englert a beaucoup parlé sur les trônes. Hein, donc, c'est pour ça que je dis que nous sommes dans cette saison, parce que Dieu nous parle toujours d'une manière cohérente. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes. Du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Et au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu, derrière, devant et derrière. Le premier était vivant. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième est être vivant à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Seigneur Dieu, Tout-Puissant qui est, qui était et qui vient. » Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce, celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent l'éponge, ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » On dit amen ?
Amen.
Amen. Il y aurait énormément de choses à dire. Au passage, donc, je parle des trônes, et question de trône, et le pasteur nous a dit, nous serons assis sur des trônes. Attention, ceux qui vaincront, ceux qui croient à ces choses-là, on sera pas. Il y aura tout plein de chrétiens dans le ciel, mais ceux qui sont assis sur le trône, c'est ceux qui croient à cela. Dieu n'oblige jamais qui que ce soit à faire quelque chose contre sa volonté. Donc, si nous régnons aujourd'hui avec lui, nous pourrons régner demain. Si nous voulons pas régner, si nous voulons juste avoir une petite vie pépère de chrétien, ok, il nous oblige pas à régner avec lui. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est les chiffres. Il y a beaucoup de chiffres. Je sais pas si vous avez vu le chiffre 7. Il y a 54 fois le chiffre 7 dans l'Apocalypse, dans la Révélation. Oui. Le chiffre 12 aussi, etc. Chiffre 7, on reviendra un autre jour là-dessus. C'est l'accomplissement parfait du plan de Dieu, entre autres. Les 7 lampes, les 7, les 7 parfums, etc. Pour revenir à cette vision que Jean a eue, avec son accord d'être saisi par l'Esprit, pour le voir, comme d'ailleurs Ézéchiel avait été saisi par l'esprit, ou de Jérusalem, de Babylone, il a vu ce qui se passait à Jérusalem. Voyez, c'est-à-dire, il a eu un transport spirituelle pour voir ce qui se passait dans le temple. Ce sont des transports spirituels qui sont des mystères, bien sûr, comment Dieu fait, mais qui nous permet de nous associer à sa vision, lui. La vision de Jean ne peut pas s'inventer ni se déduire des Écritures. Jean n'a pas pu, à partir de l'Ancien Testament, essayer de construire cette révélation. Il a décrit dans ce livre de l'Apocalypse, qui est le livre de la Révélation, comme quelque chose qui est une expérience qu'il a vécue dans la prison de Dieu, parce qu'il était lui. Comme Paul a été saisi, il est allé au troisième ciel. Vous savez, les musulmans parlent de sept ciels, la Bible c'est trois ciels. Donc on ne va pas inventer sur différents niveaux de ciel. Paul a été enlevé, il a vu au troisième ciel, et le Seigneur a dit, je te laisse l'écharpe, parce qu'il avait une écharpe dans sa chair qui le gênait. Hein. Mais Dieu a dit, ça te permettra de rester dans l'humilité. Donc parfois Dieu n'enlève pas toutes les choses qui nous embêtent pour notre confort et il nous rappelle toujours que nous sommes dépendants de lui. Donc c'est une expérience de vision réelle de ce qui se passe dans le ciel qui est décrite dans ce livre et qui permet de sensibiliser son serviteur à une réalité spirituelle qui nous échappe dans l'ordinaire. Il y en a ici qui ont déjà été ravis dans le ciel. Parce que j'aimerais les rencontrer pour connaître leur expérience. Hein. Mais ça existe. Hein. Je pense que Billy, tu connais des serviteurs en Afrique qui. Voilà. Je savais que. En tout cas, Mamadou, je crois qu'il a eu d'expérience. Non, non, c'est pas rare. Hein. C'est tout à fait des choses qui arrivent. Et moi, j'ai vécu des expériences très fortes, mais pas celle-là. J'ai pas été ravi dans le ciel. Mais il y en a qui l'ont eu. Donc c'est une expérience spécifique de vision des choses spirituelles. C'est-à-dire que les choses spirituelles, elles existent. Il y en a qui croient aux choses spirituelles
Oui.
comme une réalité. Hein.
Oui.
Oui? D'autres qui veulent dire oui? Je ne vous force pas à dire oui. Hein. Si vous croyez aux choses, enfin, aux visions spirituelles, là vous commencez à avoir la foi, la vraie foi. Pourquoi? Parce qu'Hébreux 11 dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole, et c'est les choses invisibles qui dirigent le visible. En fait, si nous regardons ce qui est autour de nous, moi je suis scientifique, la base de la science c'est d'observer. Observer ce qui se passe, en déduire les lois. Ça c'est bien, mais ça c'est pas la foi. Ça c'est de la science. Mais si vous voulez, dans la foi, il faut croire aux choses invisibles, sinon vous n'avez pas la foi. Vous avez une adhésion à une religion, vous avez adhésion à une personne, bon, c'est un bon début, hein. Mais ce n'est pas la foi. La foi, c'est de croire aux choses invisibles qui sont décrites dans la parole, il y en a beaucoup, et si vous croyez ça, vous comprenez ce qui se passe sur la terre, sinon vous ne comprenez pas. Et vous découragez, et vous cherchez ailleurs, etc. Bon. Donc, c'est très important, par exemple, d'essayer de comprendre cela avec les yeux de Jean qui a rencontré cette réalité spirituelle. Au passage, quand même, je dis que le livre de l'Apocalypse, ne vous amusez pas à le prendre complètement littéralement. Il y en a qui le font, et il y a beaucoup de chrétiens qui aujourd'hui disent ce qui va arriver à partir de ce livre, etc. C'est pas du tout comme ça qu'il faut lire ce livre. Pourquoi? Parce que je disais que ce que Jean a vu, il a essayé de le dire dans des mots. Mais comme je vous le dis, un être qui a six ailes, qui a des yeux partout, etc., ça n'existe pas sur la Terre. Bon, maintenant, avec la transhumanisme, ils essaient de faire ça, parce qu'ils copient des choses. Mais bon, ça, c'est du Hollywood, ça. C'est pas de la réalité. Vous ne le voyez pas dans le réel. Mais Jean a essayé d'utiliser des mots d'ici-bas pour décrire ça. Donc, en fait, c'est symbolique. Donc, c'est un livre symbolique. Il ne faut pas tout prendre tel que nous, on le vit ici. Donc c'est un problème de traduction. Il y a un mélange de réalités connues et de réalités inconnues. Alors le passage qu'on vient de lire, Apocalypse 4, décrit un avenir. Dieu voulait emmener Jean dans ce qui allait arriver. C'est-à-dire avant que Jean ne disparaisse, il avait 99 ans, c'était l'apôtre le plus âgé, eh bien, il voulait laisser, en fermant le livre de la Bible avec l'Apocalypse, de dire, attendez, les enfants, les chrétiens, mes bien-aimés, tout s'arrête pas là. Hein. Tout s'arrête pas à la mort et à la résurrection de Jésus. Il y a un avenir. Il y a une espérance. Ce livre nous amène à l'espérance de ce que il va arriver. Et une des espérances, c'est Gilles qui nous l'a longuement expliqué dans sa prédication, je vous encourage à relire, parce que, écoutez, il a dit, on sera assis sur des trônes, et on jugera les nations, on dirigera des villes. Et ça, c'est une réalité, mes amis. Et on les dirigera en fonction de ce qu'on aura appris ici, en plus. Donc, tout ce qu'on apprend ici, c'est pas vain. Moi, malheureusement, parce que j'avais une vocation dans mon travail et j'étais appelé comme pasteur, à la fin, je ne pouvais plus assumer, j'étais trop fatigué, j'avais trop de combats. Correctement, mon travail, l'aérospatial à l'époque, et je ne pouvais pas transmettre tout ce que j'avais appris. Et c'est difficile, hein, quand vous arrivez à la fin de carrière, vous ne pouvez pas transmettre. Vous avez l'impression que votre vie s'arrête et qu'il n'y a personne qui reprend derrière. Mais mes amis, dans l'Église, sur le plan spirituel, vous allez récupérer tous les fruits de ce que vous avez appris. Et là, la transmission, elle est non seulement assurée, mais en plus, vous allez vivre et régner avec Christ. Là, on règne. Dans notre vie personnelle, et on ne peut pas régner sur les nations parce que les nations n'en veulent pas, mais là-haut, on régnera avec Christ. Et ce qu'on aura appris, vous savez, la mort, ce n'est pas un arrêt comme ça, total, etc. Non, tout ce qu'on aura appris, ça nous servira plus tard. Et je vous renvoie au message de Gilles, hein, qui l'a mieux dit que moi. De toute façon, c'est l'objet de ce matin. Si nous réalisons cela, vous voyez, mes amis, si vous réalisez cela, ce que je résumais du message de Gilles, eh bien, votre vie va changer, votre vie chrétienne va changer. Parce que aujourd'hui, bon, vous dites, il y a des problèmes dans les églises, les machins, etc. Voilà. Vous n'allez pas raisonner comme ça. Vous allez dire, tout ce que j'ai appris, du management, de la façon de gérer, etc., de l'obéissance surtout à Christ, eh bien, ça va me servir après. Et c'est ça, le sens du chrétien, le sens de ce que Dieu veut donner à des vainqueurs, des gens qui vainquent et qui seront assis sur les trônes. Alors nous devons nous élever. La seule manière d'apprendre, c'est de nous élever au-dessus des réalités visibles. Comme l'aigle, qui est porté par les courants ascendants de la prière et de la consécration pour se débarrasser de l'ennemi. L'ennemi, vous savez, il ne va pas rester sur vous. Hein. Si vous vous élevez, il ne peut pas supporter. Il ne peut pas supporter la présence de Dieu. Donc, plus vous élevez dans la prière, dans la consécration, à un moment donné, il va vous quitter. Hein. Vous voyez, c'est le meilleur moyen de ne pas faire de bêtises. Parce que si vous utilisez des armes qui ne sont pas appropriées, lui, il va avoir le dessus. Si vous utilisez les armes d'Éphésiens 6, eh bien, vous allez remporter la victoire. Donc, soyez comme des aigles. Jean, il a été saisi directement par l'Esprit pour recevoir la révélation directe. Mais il était volontaire de rentrer dans cette réalité spirituelle. Le troisième cas que je vais développer, j'aurai énormément d'exemples ce matin, c'est le roi Nebuchadnezzar. Le roi Nebuchadnezzar, qui était roi à Babylone, eh bien, a été interpellé par un songe. À l'époque, c'était Daniel qui était à la cour de ce roi. Un songe. Et dans Daniel 2.1, il est dit, la seconde année du règne de Nebuchadnezzar, il eut des songes. Et Daniel, dans verset 29, développe ce que Dieu voulait dire au travers de ce songe qu'il a donné à ce roi. Il a dit, sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après, qui t'a fait connaître ce qui arrivera. Ce qui est intéressant, c'est que David n'a pas la grosse tête. Hein. Il ne se prend pas pour un prophète, ça y est, le roi, je vais te révéler, etc. Puis après, j'aurai des faveurs, etc. Il n'est pas comme ça, justement, il est dans l'humilité. Et il va interpréter ce songe, qui est un songe qui décrit toute l'histoire des royaumes, hein, jusqu'à aujourd'hui. C'est quand même incroyable. Et il ne perd pas le but de sa mission. Daniel, sa mission, c'est d'ouvrir le cœur du roi à la réalité spirituelle. Et au verset 30, il dit « Quant à moi, » donc c'est David qui parle, « ce n'est pas parce que je posséderai une sagesse supérieure à celle de tous les autres hommes que ce secret m'a été révélé, mais c'est dans un but, afin que l'interprétation en soit donnée au roi et que tu comprennes ce qui préoccupe ton cœur. » Voyez-vous, souvent, et je sais que vous êtes comme moi, parce que moi je suis comme vous, et qu'on est des êtres humains, on a des pensées. Il y en a qui n'ont pas de pensées ici. On a tous des pensées. Donc c'est l'âme, hein, c'est pas l'esprit, c'est des pensées. Et ces pensées nous préoccupent. Que ce soit pour notre travail, pour notre famille, enfin voilà, ça nous préoccupe, ça nous travaille. Et la nuit même, ça me travaille. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que mon travail pour voir? Enfin bref, vous êtes avec moi là? C'est vrai? Ok, merci. Eh bien, il y a des pensées, c'est le problème du christianisme. C'est qu'en fait, il y a des pensées qui sont propres et des pensées qui viennent de Dieu. Et ce qu'il faut, c'est faire la différence entre les deux. Et ça, c'est très difficile. C'est très difficile parce que souvent, elles sont mélangées naturellement, donc il faut les démélanger, il faut les défaire, pour qu'on sache ce qui vient de Dieu, ce qui vient pas de Dieu, ce qui vient de nous. Voyez-vous ? Et ça, c'est très difficile. C'est très difficile. Alors, bien sûr, vous me direz, il suffit de prier, il suffit de jeûner, ok, c'est un moyen. Mais là, le Seigneur va utiliser Daniel pour révéler des pensées qui préoccupe le roi, parce que le roi, il est un empereur. Hein, et à l'époque, il était l'empereur sur tous ses royaumes. Hein, il y avait plusieurs étapes. Vous voyez, il y avait l'ours, le lion, etc. Tout ça, c'est des empires. Aujourd'hui, on est dans l'empire en dessous, qui est l'Europe, et tout ça. Dieu révèle les secrets. Où ça va, hein. Et si nous sommes préoccupés dans notre cœur par des pensées, Dieu va les révéler par des songes. Par la nuit, il va venir, etc., il va nous parler. Moi, j'ai eu des songes personnels, hein, Michel aussi, l'Église a eu des songes, vous voyez, et je vois qu'on ne fait pas trop cas de ces songes, alors qu'ils révèlent des réalités. Là, c'est une réalité qui, dans l'histoire, est en train d'arriver et qui continue à se produire. Mais souvent les chrétiens, ils restent, bon, ils lisent les psaumes, c'est bien, hein, le Seigneur est bon, etc. Mais ils ne lisent pas les choses en profondeur dans la parole. Et du coup, ils échappent à des secrets, à des perles qui sont là, qui nous aident à avoir du sens à notre vie. Et savoir pour qui nous sommes engagés. Et le Seigneur a parlé avec ses songes et Daniel les a révélés. J'aime beaucoup un prophète qui accompagnait David, non, je cherche son nom, John Wimber. J'étais au bénéfice de ces prophètes, c'est incroyable. C'est comme s'ils voient votre vie, quoi. Ils décrivent ce que vous êtes, etc. Enfin, c'est incroyable quand vous avez affaire à des prophètes qui sont des voyants. Vous êtes dans la crainte, hein, de ce qu'ils vous disent, et qui en plus se réalise absolument quand ça vient du Seigneur. Eh bien, le prophète que je connais bien, qui s'appelle John Paul Jackson, en fait c'est un voyant. Déjà à 4 ans, il disait à ses enfants dans le garage exactement ce qu'ils avaient, et il avait reçu un don, hein, particulier. Et en fait, il donne des enseignements que j'écoute aussi, parce qu'ils sont basés sur la parole. Et ce prophète, effectivement, il parle de choses à venir, de choses qui sont réelles et qui sont interprétées. Et quand ces prophètes-là vous parlent, eh bien, ils vous amènent dans une autre dimension. Ils vous amènent dans la dimension de ce que Dieu est en train de faire dans votre vie, dans votre église, etc. Et j'ai reçu des directions absolument incroyables, que ce soit pour cette église ou pour ma propre vie. Donc, soyons ouverts à cela. Soyons, cherchons ces choses. Ce sont des dons spirituels que Dieu donne, qui font partie de ces dons, qui sont distribués par l'Esprit. Aujourd'hui, Dieu veut nous révéler ici, dans l'Église, le combat spirituel qui est engagé sur la région. Ici, on a une région dans laquelle, GPSO entre autres, il y a une percée spirituelle qui est en train de s'engager, car un combat est en route. Et durant ce temps en Béhi, quand j'étais en Béhi, ben, j'ai prié, j'ai laissé Dieu faire. Et le Seigneur m'a encouragé par des rencontres de serviteurs qui ne me connaissaient pas et qui ont compris, qui ont décrit exactement ce qu'on vit ici et ce que nous vivons en ce moment. Et qui ont confirmé que nous sommes sur la bonne voie. En particulier avec l'ouverture de la maison de prière. Alors ça c'est un point très important qui est facile à comprendre dans le naturel. C'est que l'ennemi cherche toujours, c'est une constante, cherche toujours à arrêter ce qu'on appelle avant que l'œuf, vous savez, quand il y a un œuf et un poussin qui sort, avant qu'il y ait l'éclosion. Voyez-vous. Parce que s'il peut détruire dans l'œuf, eh bien, c'est plus facile pour lui qu'une fois que ça sort et que le poussin grandit, etc. Voilà. Donc c'est toujours ce qu'il fait. C'est ce qu'il a fait avec Jésus. Quand il était bébé, tout de suite, Hérode a voulu le tuer. Et les parents ont dû partir parce que c'était un bébé. Jésus était fils de l'homme. Il a quitté le ciel, il est venu comme un homme, donc il était vulnérable. Et c'est les parents qui l'ont protégé, ils sont partis en Égypte. Mais l'ennemi sait que s'il tue au départ, c'est beaucoup plus facile que quand ça prend de l'ampleur. Vous me suivez là ? C'est pas compliqué. Mais c'est comme ça qu'il fait toujours, les amis. Toujours. Donc c'est les débuts qu'il faut gagner. Une fois que vous gagnez le début, il faut gagner la suite. Je dis cela parce que ici, personne ne savait que ce lieu était réservé à l'Église. Personne. C'est Dieu qui m'a conduit quand on était dans l'église de maison chez nous pour avoir ce lieu-là. Sauf que ce lieu était habité, donc il fallait le purifier. Et quand on avait fini, pour venir ici faire les cultes, on les faisait en bas, on les faisait à Épône, on les faisait un peu partout, on trouvait de quoi nous abriter pendant les travaux. Et juste avant l'inauguration, c'est 3 mois avant, l'inauguration était prévue en mai 98. Et 3 mois avant, il y a eu une tempête spirituelle, mais incroyable. Ma voiture ne marchait plus, tout ce qui est numérique était foutu, ça, etc. Ça venait, ça partait, etc. Il fallait que j'impose les mains. Ça... C'était prévu que l'inauguration ne se ferait pas. Et 3/4 des chrétiens ont dit « Mais non, il ne faut pas monter ici, il faut rester en bas. » Mais attends, en bas, ça avait commencé en bas. Hein. On avait acheté pour monter ici. Tout était fait pour arrêter... disons que le culte se passe ici. Eh bien, aujourd'hui, c'est la même chose, sauf que c'est la chapelle de prière, mes amis. C'est tout. Ce qu'il y a, c'est que souvent, les chrétiens, nous, on ne fait pas la relation entre ce qui s'est passé et le présent. Et c'est comme ça que l'ennemi a le dessus sur nous. Aujourd'hui, mes amis, ça, j'ai des confirmations en billet, hein, par plusieurs serviteurs, aujourd'hui, la chapelle de prière va faire des gros dégâts dans le camp ennemi. Des gros, gros dégâts dans le camp ennemi. Et ça, l'ennemi le sait. L'ennemi le sait. Récemment, j'étais à une pastorale de prière. Le pasteur m'a dit, mais alors, André, quand est-ce que tu ouvres, là ? On a besoin de prier, là. On a besoin de venir, etc. Bon, des pasteurs, oui. Sans parler des chrétiens qui attendent, on les connaît. Voyez-vous, l'ennemi veut nous distraire, veut nous empêcher de faire ce que va détruire, va ruiner. Et dans cette chapelle, on veut s'élever. On ne veut pas s'abaisser. On veut s'élever. On veut élever le nom de Jésus. On veut louer le Seigneur. On veut adorer. On veut prier. On veut intercéder. On veut faire du combat spirituel. Hello ? C'est ça. Si nous voulons être assis sur les trônes par la suite, il faut qu'on apprenne à être assis sur le trône du Seigneur aujourd'hui. C'est pas magique, hein. C'est pas magique. C'est une formation. Et donc, Satan cherche aujourd'hui à tuer les projets dans l'œuf. Et ce projet-là, c'est vrai que ça fait des années que j'essaye, je me débat, 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 et j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que, voilà, j'ai un tas de choses à m'occuper. Pourtant, le local est prêt, tout est formidable, tout le monde vient en disant c'est extraordinaire, mais il faut l'ouvrir. Il faut l'ouvrir, il faut accueillir, il faut inviter. Là, ici, il y a des gens, des monos, qui remontent à la réforme protestante, qui sont là, et avec lesquels on a encore des bénédictions à prendre. Problème, c'est qu'il y a des tensions entre les prophètes, ceux qui voient, et le peuple. Le prophète peut très bien voir des choses avant le peuple, mais il s'engage à un bras de fer, et l'ennemi utilise ce bras de fer pour empêcher que le projet se fasse. Et quand est-ce que ça va aboutir? Eh bien, Dieu a donné la solution à Daniel. Et je pense qu'on est arrivé à ce point-là. Donc, je suis confiant. Lisons Daniel 12, verset 5. Moi, Daniel, je continuais à regarder, et je vis deux autres personnages qui se tenaient là, chacun sur une rive du fleuve. L'un demandant à l'homme vêtu de lin, donc c'est Jésus, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Quand donc viendra la fin de ces choses inouïes? Alors l'homme vêtu de lin, donc Jésus, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, leva sa main droite et sa main gauche vers le ciel, et je l'entendis déclarer, je le jure, par celui qui vit à jamais, ce sera dans un temps, dans deux temps et la moitié d'un temps, quand la force du peuple sera entièrement brisée. Alors, toutes ces choses s'accompliront. Avec Michel, on a vécu des choses incroyables dans le ministère et on a reçu ça déjà dans les temps passés. On dit, Seigneur, mais on n'en peut plus, on ne peut plus. Quand est-ce que viendra la délivrance. Il a dit, quand la force du peuple sera entièrement brisée. Pourquoi? Parce que tant que le peuple a de la force, il développe sa volonté, qui est contre la volonté de Dieu. Notre volonté naturelle est contre la volonté de Dieu, naturellement. Et donc, il y a des combats, il y a des conflits, il y a tout ça. Mais quand le peuple est brisé, c'est là qu'il crie à Dieu. Et je pense qu'on est arrivé à ce point-là. Il faut maintenant qu'on accepte d'être brisé, on est déjà brisé, et de regarder, de nous élever vers le Seigneur. Amen. Et c'est ce que a montré Daniel, il dit, voilà, c'est le temps. Ne cherchez pas si un temps, c'est 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, voilà, il y en a qui font des comptes, etc. Non. Quand Dieu a permis que l'épreuve soit suffisamment lourde pour que le peuple crie à Dieu, s'attend à lui, ne compte pas sur ses forces, compte sur le Seigneur, et bien là, il y aura une percée spirituelle. Et c'est ce que on va vivre, mes amis. Dans Daniel 2, 12, toujours au verset 13, un petit peu plus loin. Quant à toi, tiens jusqu'à la fin et tu entreras dans le repos. Le Seigneur nous propose du repos. Le repos, non pas dans la chaise longue, mais le repos du Seigneur. Amen. Et c'est ça que nous avons besoin, le repos du Seigneur. Je termine par la conclusion qui est aspire à ce qui monte. Aspire à ce qui monte, le psaume 24, verset 3 dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'en son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. La miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent la face de Jacob. Amen. Ça, c'est une promesse. Aspire à tout ce qui monte. Monte sur la montagne de l'Éternel en élevant des mains pures. Invoque-le et cherche sa face. Il faut chercher Dieu, il faut chercher sa face. Parce que celui qui cherche, il trouve. Aspire aux dons les meilleurs et surtout, dit la parole à la voix de, surtout à la voix de, ça c'est en Corinthiens 13, hein, Corinthiens 12 qui parle des dons. En fait, c'est le sandwich. Vous vous rappelez du sandwich? Là, j'ai pas de sandwich. Ah, sandwich. Pardon? Ah oui, c'est l'amour. 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, c'est les dons spirituels. Et 1 Corinthiens 13, c'est l'amour. Voyez-vous, on peut avoir des dons, le Seigneur donne des dons, mais s'ils ne sont pas exercés dans l'amour, c'est comme un airain qui résonne. Hello? Ça veut dire que il faut les dons, mais c'est dans l'amour. Et l'amour, c'est ce qui se donne. Moi, j'étais frappé de certains termes qu'utilise Gilles en disant la dernière fois, je vous donne une partie de ma vie. Voilà. C'est-à-dire, quand il vient, d'ailleurs, il n'est pas payé, il ne demande rien du tout. Quand il vient, il fait 160 km aller-retour, tout ça, tout ce qu'il fait, c'est gratuit. C'est... Voilà. Mais il dit, je donne une partie de ma vie. Parce que Dieu me le demande, de vous donner une partie de ma vie. Ça, c'est du don, une partie de ma vie. C'est dit autrement, mais c'est de l'amour. C'est de l'amour pur. Voilà. Et c'est grâce à cela qu'il a un résultat dans cette église. Parce que il ne fait pas ça pour lui. Mais la dernière fois, j'ai un peu abusé de lui. Voilà, mais il s'y est prêté au jeu. Il a dit, écoute, je viens le samedi avec le comité de direction. Je dis, ah, il faudrait que tu viennes le samedi et le dimanche. Il a dit, oui, mais ma femme, il faut qu'il laisse tout le temps la femme chez la acouphène et tout ça. Je dis, écoute, voilà, si je peux te demander vraiment de faire ça. Il a dit, je vais voir. Il a demandé à sa femme, ça, elle prie. Il dit, oui. Voyez-vous, il donne tout. Il donne tout. Et ça, c'est l'amour. Il donne une partie de sa vie pour que le royaume de Dieu. Bon, c'est le royaume de Dieu qui fait. Hein. C'est parce qu'il sait ce que c'est que le royaume. Et c'est ce genre de personne que Dieu veut faire de nous. Amen. Est-ce qu'il y en a qui sont partants pour cela? Je ne vous demande pas de lever la main parce que c'est dans votre cœur. Hein. C'est important. C'est les choses d'en haut. C'est une autre nature que les choses d'en bas. Ce sont des valeurs qui sont éternelles. Et en bas, il y a l'argent, maintenant, il y a des dollars, il y a des euros, il y a tout ce que vous voulez. Ça, c'est rien, c'est du papier. Mais là-haut, dans le ciel, il y a des choses éternelles. Amen. Il y a des choses qui nous attendent et où on régnera avec Christ sur des nations, sur des royaumes, sur des choses absolument incroyable. Et c'est ça qu'il faut regarder. Donc, élevons nos yeux, élevons-nous comme le Seigneur nous le demande et nous aurons un appétit pour ces choses-là. Amen. Seigneur, te prions pour que ta parole puisse faire son effet dans nos cœurs et nous entraîner, Seigneur, à voir les choses comme toi tu les vois, comme tu veux nous les montrer. Afin que, Seigneur, nous soyons motivés par, Seigneur, non pas les choses de la vie qui nous gênent ou même les choses de l'Église qui, Seigneur, qui nous embêtent, mais Seigneur, que nous voyons la réalité spirituelle et que nous puissions y tendre et au travers, Seigneur, de cette réalité, eh bien, nous vivrons différemment. Nous vivrons dans un domaine, Seigneur, qui sera exaltant. Palpitant, Seigneur, et nous verrons des choses. Et merci pour cette percée que, Seigneur, était en train de se faire, que nous voulons voir, et pour cette ouverture de cette maison de prière, cette chapelle de prière. Seigneur, nous te demandons de nous aider à percer aussi sur la terre comme toi tu perces dans le ciel, pour que nous puissions nous rejoindre et que, Seigneur, nous soyons au rendez-vous pour que ta gloire puisse se manifester. Nous te prions. Au nom de Jésus. Amen.